France Inter.
To be very frank, the market is already incorporating at least one or two or even three downgrades. So I mean, the market has been, I would say, quicker than the rating agencies to adjust the levels. For me, an investor, it's an event, to be clear.
La France dégradée, pour lui, c'est un non-événement, un non-event. Voici Vincent Mortier, le directeur des gestions d'Amundi, un homme important. Hein. Amundi, c'est le numéro un en Europe de la gestion d'actifs. Vincent Mortier parle à nos confrères de Bloomberg. Il est la voix des investisseurs with a French accent. Les marchés, dit-il, ont intégré depuis longtemps que le pays n'est plus un très bon élève. Il nous demande déjà plus cher qu'à l'Italie pour nous prêter de l'argent. Oui, nous avons perdu le triple A en 2012 et nous perdons le double A en 2020. Nous sommes encore très loin du fond de la classe, mais la lente glissade se poursuit. Et de la note d'explication de Fitch, diffusée cette nuit, on retient que ses analystes voient la dette française grimper jusqu'à 121% du PIB en 2027. La fragmentation politique, écrivent-ils, entrave la consolidation. To be clear, comme dirait M. Mortier, trois gouvernements depuis la dissolution, puis une campagne à venir pour la présidentielle. Le monde étant ce qu'il est, il y a peu d'espoir que les finances s'assainissent, soit grâce à de grands choix politiques, soit grâce à un retour magique de la croissance. Et puis, je lis noir sur blanc, il est probable que l'impasse politique se poursuive au-delà de 2027. Alors, conclusion, à ce niveau de dette et avec l'instabilité politique que nous connaissons, il ne faut plus compter sur la mansuétude des agences de notation. Le FMI n'est certainement pas à nos portes, mais Fitch nous dit cette nuit que nous n'avons plus les moyens de rester dans le déni.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bon, je me moque des accents, mais on adore les accents, comme vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, dans On n'arrête pas l'écho. Bienvenue, c'est samedi, c'est économie. Nous sommes tous ensemble avec Céline Hila, la réalisatrice, Anne-Cécile Perrin, notre attachée de production. Celui qui prépare l'émission avec moi, c'est Valentin Pérez. Maxime Goudard signe les mix et Cédric Diallo est à la console. L'invité de ce samedi, c'est Daniel Ball, le président du Crédit Mutuel et du CIC et le nouvel homme à la tête de la Fédération du secteur bancaire. On le fera bien sûr réagir à cette dégradation et on lui demandera quelles seront les conséquences pour l'État, pour les entreprises et pour les ménages. Interview de Daniel Ball, c'est vers 9h40. Ce matin, zoom sur les cartes bancaires, de plus en plus utilisées à la place du cash, et pourtant leur disparition est sans doute écrite, oui. Peut-être bien qu'un jour, nous pourrons payer avec un sourire. Vous entendrez le reportage surprenant d'Anaël Verzo. Madame Vioboulot est avec nous et elle répond à vos questions. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce matin, vous ne répondez pas à la question d'un auditeur. Vous nous parlez d'une révolution qui a fait beaucoup réagir cette semaine et qui nous concerne tous.
Oui, c'est une décision de la Cour de cassation. Maintenant, quand on tombe malade en vacances, on pourra reporter ses jours de congé.
Alors, l'éclairage de Sandrine Foulon, c'est dans une grosse demi-heure, juste avant les informations de 10h. Tout de suite, l'actualité de la semaine. Il y en a beaucoup d'actualités, mais mercredi, passation de pouvoir à Matignon. Sébastien Lecornu conduit vers la sortie François Bayrou et dans son discours de 2 minutes, le nouveau Premier ministre promet des ruptures sur la forme comme sur le fond. Comment cela peut-il se traduire dans le projet de loi de finances qui doit s'écrire? Voici la taxe Zucman qui revient au cœur du débat budgétaire. Nous allons en parler avec nos débatteurs. Leïla Aboud, la chef du bureau de Paris du Financial Times. Hello Leïla.
Bonjour Alexandra.
Et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques. Christian qui nous donne ses conseils de lecture une fois par mois, mais qui va régulièrement revenir dans le débat, c'est une vieille histoire. Salut Christian.
Bonjour Alexandra.
Avant de parler de la taxe Zucman, une réaction, Leïla, sur la dégradation de la France. Big deal ou pas big deal?
Je pense que le mot-clé dans la phrase de l'investisseur, c'était c'est un non-événement pour les marchés. Mais pour le pays, ce n'est pas un non-événement. Les marchés, ils anticipent. Alors, du coup, ils avaient déjà intégré cette éventualité. Mais il ne faut pas oublier des trucs de base. La France a le niveau de dette par rapport au PIB, le troisième le plus mauvais dans la zone euro. En termes de déficit au PIB, on est les pires en zone euro. Alors du coup, ça ne change pas, ça existe. ça ne va pas changer. Ce n'est pas la dégradation de la note qui change ça. Après, je pense que le verdict d'un autre investisseur avec lequel j'ai parlé cette semaine, il a juste dit une phrase un peu fatale qui disait « La France fait partie maintenant des pays périphériques de la zone euro », c'est-à-dire les emprunteurs les plus risqués de la zone.
Les plus risqués, mais on a quand même encore un 16 sur 20, Christian.
Oui, ouais. Oui. Après, bon, ça, c'est le 15. Voilà, je veux pas dramatiser trop, mais je pense qu'il faut pas non plus minimiser le fait que c'est pas très très bon signe non plus.
Oui, on n'arrête pas. La France n'arrête pas de payer la gestion économique catastrophique d'Emmanuel Macron et sa dissolution loupée. On est dans une situation budgétaire où on a plus de 5 points de PIB de déficit année après année. Et les gens de Fitch, ils disent est-ce qu'au moins il y a un consensus politique pour remettre la France sur les bons rails ? Et bienvenue, Monsieur Le Cornu. Non, on vous fait pas confiance pour remettre la France sur les bons rails budgétaires.
Ouais, pas de période de grâce pour le nouveau Premier ministre. Alors, justement, dans ce cadre-là, comment allons-nous écrire un nouveau projet de budget ? Ce matin, on fait toute la lumière sur le sujet de la semaine, la taxation des plus riches. Jusqu'où la rupture ? C'est notre débat.
Le Premier ministre s'est installé hier à Matignon avec la promesse de rupture sur le fond comme sur la forme.
Sur la fiscalité des hauts revenus, le Premier ministre est, par exemple, prêt à avancer.
Oui, la taxe Zucman, du nom de cet économiste, vise les centimillionnaires, ceux dont la fortune dépasse les 100 millions d'euros. Et l'idée consiste à créer pour eux un taux plancher d'imposition 2% et une contribution différentielle pour s'assurer que ces très riches paient effectivement au moins 2% de leur patrimoine en impôts.
Si vous prenez le classement du magazine Challenge.
Gabriel Zucman, professeur d'économie à l'École normale supérieure et à Berkeley, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité.
En 1996, 500 plus grandes fortunes possédaient en richesse l'équivalent de 6% du PIB français. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. Il y a eu une explosion considérable. Et donc, quand vous dites, oui, c'est beaucoup d'impôts qui vont payer, je veux que tout le monde comprenne bien que, en moyenne, leur fortune a augmenté de 10% par an en moyenne. Ce que vient dire l'impôt plancher, vous allez devoir payer 2%. Donc, au lieu d'avoir 1,1 milliard à la fin de l'année, vous allez avoir que 1,78 milliard.
Ça conduira à l'exil fiscal.
Gérard Larcher, président du Sénat.
Les frontières ne sont pas fermées par rapport aux capitaux. On a un marché de capitaux européens, par exemple, mais aussi à dimension mondiale. Et je vais prendre des start-up qui sont le soubassement de notre pays. Je vais en citer deux. Doctolib, les Français connaissent tous. Tax Zucman. Vous pensez qu'ils vont rester dans le pays ? Je vais en prendre une deuxième start-up, intelligence artificielle. Mistral, Tax Zucman.
Nous avons, nous, mis sur la table la taxe Zucman.
Raphaël Glucksmann, député européen et coprésident du parti Place Publique.
Et on peut discuter des modalités, on peut discuter de l'assiette, on peut discuter du montant, mais par contre, ce dont on ne peut pas discuter, et ce qui est la condition de possibilité de tout accord, c'est le fait qu'à la fin, un dispositif permette de taxer les miracles. Ceux qui ont multiplié par deux leur fortune sur les 8 dernières années, eh bien que ces gens-là soient mis d'abord à contribution.
Aujourd'hui, moi j'entends des partis...
Pierre Gattaz.
Qui veulent taxer toute la journée.
Ancien président du MEDEF.
Le PS, qui représente moins de 2% des votes, veut taxer la taxe Zucman, ce qui est un scandale. Quand vous avez 2% sur 100 millions, pour faire quoi ? Pour faire remplir une baignoire qui est la France, plein de trous.
Christian Chavagneux, je me tourne vers vous pour la photo. Est-ce que nous avons un problème de taxation des riches en France et de quels riches parlons-nous ?
Oui, on a un gros problème. Les très très hauts revenus, donc les 0,1% français les plus riches, il faut gagner plus de 450 000 à 500 000 euros par an. Donc voilà, c'est pas un. Ou alors des gens qui ont un très haut patrimoine, c'est avoir un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas beaucoup de monde. Ces gens-là, on a une note de l'Institut des politiques publiques de 2023 qui nous dit quand on passe la frontière des 0,1%. Jusqu'à présent, les gens payent en gros en impôts 45 à 50% de leurs revenus. Dès qu'on franchit cette barre, on va tomber à 25%. Donc les ultra-riches en France payent la moitié d'impôts des autres contribuables français. Ça ne va pas du tout. Le Trésor public, Bercy, l'année dernière, nous dit entre 2003 et 2022, toujours ces 0,1% les plus riches, leur revenu moyen, progression 119% entre 2003 et 2022. Nous, le reste de la population, 46%. Donc leurs revenus ont beaucoup plus progressé. Les impôts, ils ont baissé pendant que le reste des impôts en moyenne ne bougeait pas. Gabriel Zucman l'a dit, le magazine Challenge regarde les 500 plus grandes fortunes de France. Donc là, on a concrètement combien ils ont. En 2004, c'était 153 milliards leur patrimoine. En 2025, 1128 milliards. Hors inflation, ça progresse de 7% par an. Une taxe Zucman qui enlève 2% fait que la fortune de ces ultra-milliardaires va progresser de 5% par an. C'est vraiment pas une spoliation. Et là, on a un vrai problème.
Leïla Aboud, est-ce que vous voulez amender la photo, ajouter des détails, ou bien est-ce qu'on part directement sur la discussion de cette taxe Zucman?
Je pense qu'on peut déjà se disputer sur la photo, mais on va passer la journée. Du coup, on va juste passer aux solutions.
Ah non, qu'est-ce que vous voulez ajouter sur la photo? Est-ce que le périmètre des riches...
C'est pas uniquement un truc en France. Alors du coup, le fait que les valorisations boursières des entreprises qui sont détenues par les plus riches augmentent beaucoup, période des dizaines d'années, des taux d'intérêt très bas. Bon, il y a plein de raison d'ailleurs, ça. C'est juste pas en France qui se passe, et c'est pas parce que la France adore les riches et les taxe pas assez. Bon, je vais partir de
ça. Ça, c'est votre version. Ok, ça, c'est votre photo.
Voilà. Maintenant,
la taxe Zucman.
La taxe Zucman, je pense que c'est pas totalement... c'est pas un débat inutile à avoir. Après, je pense que c'est très, très, très risqué de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, et en plus, si la France le fait tout seul. Moi, je dirais, j'ai vraiment une grande question, et il y a plein d'économistes qui la posent, c'est cette idée que les actifs professionnels rentrent dans l'assiette de ce qu'on va taxer. Soyons clairs, on va taxer la valeur de tout le patrimoine, c'est-à-dire tout ce que je possède, et si je possède une entreprise, l'entreprise rentre dans cette assiette. Ce n'est pas 2% en tant que tel net, c'est 2% si les autres impôts que je paye n'atteignent pas ces 2%. C'est un plancher.
Exactement. La taxe Zucman, c'est cette proposition de taxer à 2%, en tout cas, en effet, au regard des autres impôts et de ce qui a déjà été prélevé, tous ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions. On est d'accord sur la définition de Zucman?
Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et juste pour faire vite, et je donne la parole à Christian, la question, qu'est-ce qu'on met dans cette assiette et s'il y a des exemptions ou pas? Enfin, l'ancien impôt sur la fortune en France excluait les biens professionnels. Parce que en partie parce que c'est quand même risqué de les mettre là-dedans. Bon, tout le monde maintenant mentionne Mistral, Doctolib, on a l'impression que c'est un truc très très marginal. C'est pas marginal, c'est pas uniquement eux, c'est aussi juste, il y a une idée derrière, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont une boîte qui dégage pas encore les recettes, pardon, qui dégage pas encore de la rentabilité, ils ont comme, à mon avis, le droit et l'obligation même pour le pays de continuer et pas être ponctionné chaque année avant même que leur truc aboutisse à quelque chose très très bien.
C'est ponctionné sur une valorisation en plus, c'est quelque chose qui n'existe pas encore.
Oui, exactement, mais rappelons quand même que lorsqu'on a un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, le boulanger du coin ou la PME du coin ne sera pas du tout concerné, on est bien d'accord.
Oui, je ne dis pas le contraire.
Voilà, donc pour les très très riches, pour Bernard Arnault, la famille Wertheimer qui détient Chanel, qu'est-ce que ça veut dire les biens professionnels? C'est des holdings financiers dans lesquels il y a les actions de leurs entreprises familiales, et c'est ça qui leur apporte leur fortune et leur patrimoine. Si on enlève les biens professionnels de Bernard Arnault, il n'y a plus rien dans sa fortune. Vous allez taxer à 2% minimum, rien du tout. Donc si on enlève les biens professionnels, la taxe Zucman ne sert à rien. C'est pour ça que l'ISF ne rapportait rien. C'est parce qu'on avait exclu les biens professionnels.
Par an, quand même.
Maintenant, attends, je finis. Si on met les biens professionnels, là, on a vraiment l'intégralité du patrimoine des riches. Et ce qu'il faut faire. Alors, Mistral AI et Doctolib, vous rendez compte, c'est des boîtes qui ne dégagent pas encore de rentabilité. Comme la valorisation boursière est plusieurs milliards, les patrons...
C'est pas boursière. Ils ne sont pas cotés, ces boîtes. Ils ne sont pas cotés. Celles-là, ils ne sont pas liquides.
Attendez, Christian.
Il y a une valorisation.
Leïla.
Là, je vais
m'énerver.
une entreprise, pour faire basique, comme Mistral, elle n'est pas cotée, cette entreprise. Elle a 3 ans. Elle est valorisée, là, je mets des gros entre guillemets, par les investisseurs privés qui ont mis des fonds de capital dedans, risque à risque, par définition. Si, cette boîte ne gagne pas d'argent. C'est ces gens dans les nuages, les 14 milliards. Soyons tous. Alors, du coup, si on demande aux fondateurs, chaque année, d'acquitter une facture sur une valorisation imaginaire, il y a zéro raison qu'ils restent dans ce pays. Je suis désolée, mais zéro raison. Et on peut dire, bon, ils sont 30 dans le pays à faire ça, est-ce que vous voulez qu'ils soient zéro? Moi non, peut-être lui, vous. C'est très facile de taper sur le Berlin, non? Et vous avez, à la limite, raison. Je vais vous accorder ce point. Mais il y a aussi d'autres cas de figure qu'on ne peut pas juste... prétendre qu'ils n'existent pas, ils existent.
Donc ça, c'est sur les biens professionnels. On a compris, sur les biens professionnels, vous n'êtes pas d'accord. Non, Christian, Leïla voudrait des exemptions sur ces boîtes comme Doctolib.
À ce moment-là, il n'y a plus d'assiette, ça ne sert à rien.
C'est pas vrai. Il y a quand même une assiette, elle est moindre, mais elle n'est pas...
Elle est
comme
toute petite.
Vous dites, il y a quand même les Wertheimer, les Bernard, etc.
Il y a cette idée qu'ils partiront, l'exil. Ça, vous en êtes sûr, Christian?
Note du Conseil d'analyse économique d'il y a une dizaine de jours, on mesure l'exil fiscal des riches en France. Première conclusion. illusion. Il n'y a pas, les riches sont très très peu mobiles en France. Il y a des gens qui partent à chaque fois que vous augmentez les impôts, mais les riches sont très très peu mobiles. Et c'est pas grave, parce que si ceux qui partent, comme dit Leïla, c'est les gens qui sont super dynamiques dans l'économie française, ça va créer un gros problème. Eh ben non, pas du tout. La note du CAE nous dit le problème est extrêmement marginal. Même si vous prenez les plus riches qui partent, l'impact sur l'économie française, zéro. Donc non, c'est un mythe, l'exil fiscal, et c'est ce que dit la note du Conseil d'analyse économique.
Là aussi, c'est un débat qui peut prendre 3 heures, mais c'est pas... Enfin, les biens eux-mêmes peuvent être déplacés et la personne peut rester. Alors du coup...
Ah, ou l'inverse.
Aussi... Oui, oui.
Les magasins bon. Chanel, ils vont rester en France, même si le patron de Chanel ou si le propriétaire de Chanel s'en va.
Alors, on va
le capital
pas, on va pas résoudre cette question.
On va pas résoudre cette question. Est-ce qu'il y a d'autres, critiques sur cette taxe Zucman? Il y a l'idée que ça rapporterait pas du tout ce que Gabriel Zucman dit que ça rapporterait. Et il y a l'idée que ça serait retoqué, qu'en fait, que c'est complètement inconstitutionnel. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous apporter des éclaircissements? Leïla.
Pour la constitutionnalité, je pense qu'il y a un risque, parce qu'il y a déjà eu des décisions par le passé qui limite le niveau où on peut aller. Moi, je ne suis pas constitutionnelle, je ne vais pas me faire un pronostic là-dessus. Sur les recettes, il y a un vrai débat. Et Gabriel Zucman, il va mettre le chiffre autour de 15 à 20 milliards par an. Il y a un autre groupe d'économistes aussi très de renommée qui disent que ça sera plutôt de l'ordre de grandeur de 5.
Ça, c'est une arnaque totale.
Ça, c'est Philippe Aguillon, par exemple. C'était une tribune qu'il y a eu, OK, dans Le Monde.
Mettons qu'il y a juste une incertitude, disons. Voilà.
Enfin, alors, sur la constitutionnalité, c'est vrai qu'on avait... le Conseil constitutionnel, au début des années 2010, a dit soit vous mettez, vous arrivez les riches à taxer leur patrimoine jusqu'à 0,5% sans plafond, soit vous montez à 1,8%, mais il faut plafonner le montant des impôts qu'ils payent. Donc, on se dit, jurisprudence, 2% de patriimoine, ça ne va pas marcher. Sauf qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel ne savait pas que ces très riches payaient la moitié des impôts des autres, et que, par ailleurs, on n'est plus du tout dans le cas de l'ISF où il y avait 800 millions ou 1,3 million pour être taxé, on est supérieur à 100 millions. Donc, même s'il y a un plafond, il peut être super élevé. Sur les 5 milliards, c'est une arnaque totale. Pourquoi? Parce qu'un journaliste économique qui est souvent présent à la place de Leïla en face demande aux gens du CAE, du Conseil d'analyse économique, est-ce qu'on peut dire de vos études passées qu'il n'y a que un quart, quand vous augmentez les impôts des riches de 100, il n'y a que 25 euros qui rentrent parce que tout le reste va partir en optimisation d'exil.
Vous voulez nous dire qu'on n'a jamais fait ça, ce type de taxe avant. Alors, comment est-ce qu'on peut se reposer sur les mêmes études qu'avant?
Parce qu'il y en a eu dans d'autres pays, qu'on peut comparer ce qui s'est passé dans d'autres pays par rapport à ce qui pourrait se passer en France. Je finis quand même juste.
Et
Camille Landais, qui est l'auteur de l'étude, dit on ne peut pas déduire de ces études, parce qu'elles datent des années 90 au Danemark, et qu'entre-temps... Comment va faire Bernard Arnault pour dire que LVMH ne vaut rien, puisqu'on a la valeur de LVMH? Donc non, on va pouvoir taxer tout. C'est ça la ruse de la taxe Zucman, c'est qu'on taxe sur le patrimoine valorisé, et ça, on ne peut pas y échapper. Bon, et donc, c'est plutôt 20 milliards que 5 milliards.
Christian, le mot de la fin pour Leïla Aboud.
Il y a 20 ans, il y avait 12 pays dans l'OCDE qui avaient des impôts sur toute la fortune. Maintenant, il y a 3. Pourquoi? Parce que ça n'a pas bien fonctionné ailleurs, pour plein de raisons. Alors du coup, il n'y a pas beaucoup de pays qui vont lâcher un impôt si ça fonctionne bien. Alors du coup, je vous demande juste de garder cette idée en tête.
C'était mal fait. La taxe Zucman, c'est beaucoup mieux fait.
On va voir.
Christian Chavagneux et Leïla Aboud, ils ont vraiment débattu dans On n'arrête pas l'écho.
Real Decreto Ley para la ampliación de derechos
deindustrialisieron
el clima. Unemployment and lower job creation.
L'économie comme elle tourne ailleurs pour les 27.
We're firmly on track to achieve our 2030 targets to cut emissions by at least 55%. This is the power of the European Green Deal and we must stay the course on our climate and environmental goals. This is a must, honourable members.
C'est Ursula von der Leyen devant les eurodéputés à Strasbourg cette semaine pour le discours sur l'état de l'Union. Nous sommes sur la bonne voie pour réduire nos émissions d'ici à 2030. Voilà la puissance du pacte vert, dit la présidente de la Commission. Et maintenant, nous devons maintenir le cap sur nos objectifs climatiques et environnementaux. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter pour les affaires européennes. Alors Ursula von der Leyen, va-t-elle vraiment réussir à maintenir l'agenda du Green Deal et en particulier cette date de 2035 à partir de laquelle la vente des moteurs thermiques devrait être interdite? Fabien, les Volkswagen, BMW, Mercedes, Volvo et bien sûr Renault militent ardemment pour un assouplissement. Après leur rendez-vous d'hier avec Madame von der Leyen, que pouvez-vous nous dire ? Est-ce que 2035, ce totem du pacte vert est prêt à tomber ?
Alors, pour le moment, on en est à un réexamen promis aux constructeurs automobiles. Réexamen ne signifie pas renoncement, s'empresse de préciser la Commission européenne, qui dit vouloir introduire des flexibilités, de la souplesse dans la manière d'atteindre l'objectif zéro émission pour les voitures neuves en 2035. Ça reste l'objectif, mais les ajustements pourraient, par exemple, concerner le rythme auquel on veut l'atteindre, peut-être des paliers intermédiaires moins ambitieux dans un premier temps pour accélérer à l'approche de 2035 quand la filière sera davantage structuré. Il y avait eu aussi au printemps dernier un autre type de souplesse introduite par la Commission, un changement de mode de calcul des amendes qui les rend un peu plus douces pour le portefeuille des constructeurs en cas de manquement aux objectifs. Le principe a été acté pour cette année 2025 et on peut imaginer que les discussions vont se poursuivre pour les années qui viennent.
Mais pourquoi, Fabien, l'industrie automobile européenne semble faire de ce sujet un combat existentiel ? Ça fait quand même longtemps qu'ils sont censés se préparer, ils demandent de la visibilité.
Oui, ce qui plaide plutôt d'ailleurs en faveur du maintien des objectifs de long terme, mais les industriels européens vous expliquent en même temps qu'ils ont besoin de souplesse pour pouvoir les atteindre. On ne transforme pas l'outil industriel en un claquement de doigts, plaide-t-il. Le temps industriel n'est pas le temps politique. Il y a aussi les difficultés d'approvisionnement, des chaînes logistiques qui peuvent se gripper, comme après la crise sanitaire, et puis la concurrence chinoise qui affecte leurs ventes et donc leurs investissements. Sur ce point, la Commission européenne leur répond tout de même que le modèle économique qu'ils ont choisi en se lançant dans l'électrique est sans doute à revoir. Beaucoup de constructeurs européens ont misé sur le haut de gamme, des voitures chères que pas grand monde ne peut acheter en Europe et encore moins sur des marchés émergents comme l'Inde ou le Mexique, qui pourraient pourtant être d'importants relais de croissance.
Fabien Cazot avec nous en direct de Bruxelles. (Musique) 9h36 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, notre invité, c'est Daniel Ball, le patron du Crédit Mutuel et du CIC. Il a depuis quelques jours aussi la casquette de président de la Fédération Bancaire Française. Interview bien sûr sur la dégradation de la note de la France, les taux, le budget, mais aussi le mouvement Bloquons Tout. Mercredi dernier, près de 200 000 personnes ont participé à cette mobilisation contre l'austérité et les inégalités. Et parmi les mots d'ordre, certains collectifs appelaient à boycotter les cartes bancaires. Une protestation contre la société de consommation et peut-être aussi contre l'abandon des espèces au profit du numérique. Alors, gros plan ce matin sur cet objet du quotidien, la carte bancaire, oui, même pour payer sa baguette depuis le Covid. Un succès, vous allez l'entendre en trompe-l'œil, car d'autres moyens de paiement sont déjà dans le circuit, certains surprenants. Écoutez ce reportage d'Anaël Verzo. Elle nous emmène ce matin dans le sud-est de la France, chez Thalès, dans une usine de fabrication de cartes bancaires, un site très protégé.
Bonjour et bienvenue chez Thalès. Votre appel est pris en compte. Un agent va vous répondre.
Sécurité. Oui, bonjour, Anaël Verzo de France Inter.
Oui.
Merci. Bonjour.
Jean-Christophe Audan, responsable du site de production.
C'est étonnant ces machines-là, on se croirait dans une salle de projection de cinéma à l'ancienne. Vous savez, avec ces rouleaux-là.
Mais ça s'appelle le film, donc ça fait 50 ans que ce site fabrique des puces. Donc on a des clients en France et à l'international. On va y retrouver les grandes banques françaises, mais aussi tout ce qui est carte ticket resto, carte de fidélité.
On peut aller faire un petit tour au milieu ? Allez.
Les puces arrivent sur une grosse galette prédécoupée. La machine vient prendre une puce, la positionner, là vous pouvez voir, sur l'emplacement sur le film, et au préalable, un point de colle a été mis. Une carte sur trois en France et dans le monde est produite par Thalès.
Vous fabriquez combien de puces ?
On est à 20 millions par mois.
D'accord. Merci.
Bonjour, Nicolas Valette. Je m'occupe de l'équipe marketing produit pour l'ensemble des cartes de paiement pour Thalès. Donc en fait, j'ai une équipe de chefs de produits qui s'occupe de développer les nouveaux produits d'un point de vue corps de carte. Donc ça, c'est une carte en métal.
Et c'est quoi la différence ?
Il y a un aspect plus premium. C'est de plus en plus un outil marketing pour les banques, puisque aujourd'hui, c'est le seul lien physique entre la banque et le porteur. Et aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, c'est les cartes en bois. On a développé un produit aussi qui est une carte pour les malvoyants ou les non-voyants. Donc là, par exemple, donc ça, c'est un terminal de paiement. Donc j'insère ma carte. Donc on imagine que le porteur a ses écouteurs et ça se passe de façon discrète. Et là, je viens payer, par exemple, 12 euros.
L'action est de 12 euros.
Ensuite, je viens taper mon code PIN.
Le PIN est vérifié. Paiement de 12 euros confirmé.
Tout le monde n'est pas prêt à payer en mobile et on sait que ça prendra beaucoup de temps pour payer avec son mobile. Donc on sait que les cartes sont encore là pour les 10 prochaines années. Et donc c'est important d'apporter toutes ces innovations pour avoir quelque chose qui soit aussi élégant, fun, que payer avec son téléphone. Payer avec sa carte, ça peut être quelque chose de très fun aussi.
Thalès intervient à toutes les étapes de la fabrication d'une carte bancaire jusqu'à l'injection dans la puce des données personnelles des clients et la mise sous pli sécurisée. Malgré la montée en puissance du smartphone, le nombre de cartes produites chaque année ne baisse pas, assure le groupe, qui propose de nouveaux produits, comme des cartes avec des lumières LED qui s'allument au moment du paiement, ou encore des versions biométriques sur lesquelles l'utilisateur met le doigt au lieu d'entrer son code. Autant d'innovations dont sont friandes les banques en ligne. Je me rends à présent dans le centre de Paris, chez Lydia, une application de paiement entre particuliers par téléphone.
Bienvenue, je suis Cyril Chiche, le cofondateur et président de Lydia Solutions.
Et vous nous montrez vos locaux, donc c'est un grand open space. On ne parle pas très fort parce qu'ils sont tous autour des tables en train de travailler. Et il y a une quinzaine de personnes là, dans cet open space.
Alors, Lydia est une solution de paiement entre personnes qui, depuis un petit moment maintenant, est un peu rentré dans le langage courant, parce qu'on dit « je te fais un Lydia », donc c'est une solution qui permet, avec une application sur son mobile, d'envoyer ou de recevoir de l'argent de manière instantanée. 8 millions de Français utilisent les services de Lydia, et parmi ces 8 millions de Français, plus de la moitié ont entre 18 et 35 ans, donc les jeunes qui, avec le temps, deviennent un petit peu moins jeunes, et donc finalement, un jour, sans doute tout le monde.
Alors, vous avez créé aussi Sumeria, qui est associée à Lydia. C'est une banque en ligne.
C'est les services bancaires de Lydia Solutions. Donc voilà, Sumeria a conquis depuis son lancement 2 millions de Français. Alors tous payent avec leur téléphone. Ce système apporte la simplicité d'usage du sans-contact avec la sécurité de l'identification biométrique.
Mais si mon téléphone n'a plus de batterie ou s'il est cassé, comment ça se passe?
Oui, et du coup, j'ai quand même une carte.
Voilà, vous êtes en train de nous montrer donc votre carte bancaire Sumeria, qui ressemble à une carte bancaire classique Visa.
Voilà, qui est une carte en métal. Mais vous verrez surtout qu'il n'y a aucun numéro sur cette carte. On peut se dire, mais du coup, je ne pourrais pas m'en servir en ligne. Mais j'aurais besoin d'avoir ces numéros de carte dans mon application, de les copier et coller sur le site internet, ça suffirait. J'ai pas besoin qu'ils soient écrits sur la carte. Notre perception, c'est que la carte va devenir de plus en plus un outil de secours. Et donc, je l'aurai quelque part dans un tiroir, dans un portefeuille. Mais ça sera pas mon usage quotidien, c'est déjà le cas aujourd'hui.
Choisir de régler ses achats par carte ou par téléphone, c'est un choix qui impacte directement les commerçants. Laure Brunet-Runard de Brimont, la déléguée générale de la Confédération des commerçants de France, m'a donné rendez-vous à Issy-les-Moulineaux. Elle constate un véritable phénomène.
On le voit aujourd'hui, les chiffres montrent une dynamique qui est assez impressionnante. Chaque mois qui passe, il y a 10% de paiements par mobile supplémentaires. Alors, pour le commerçant, il y a un inconvénient qui est que vous ne savez pas quelle est la carte qui est embarquée sur le téléphone et la carte qui va être utilisée pour payer. Ça peut être un problème parce que les commissions des tickets restaurants diffèrent des commissions de carte bleue. Un paiement par ticket restaurant, il y a des frais de gestion, il y a une commission qui est prise par l'acteur qui gère ses cartes, donc ça peut être assez élevé. Mais ça dépend également de l'opérateur qui est utilisé pour le paiement. En France, vous avez majoritairement trois possibilités. Vous avez Visa, vous avez Mastercard, qui sont des solutions américaines. Et vous avez CB, qui est une structure française qui garantit la souveraineté française des paiements et qui est moins chère en termes de commission. Le fait de payer par téléphone, jusqu'en 2024, c'était uniquement Visa ou Mastercard.
D'accord, donc pour le moment, les commerçants payent une commission plus élevée quand on paye, nous, clients, avec notre téléphone.
Oui, tout à fait. À cet instant, sauf pour les utilisateurs d'Apple Pay, les commissions sont un petit peu plus élevées lorsqu'on paye par téléphone qu'en carte bancaire. Les négociations se sont faites. Sur Apple Pay, on est sur quasiment l'ensemble des banques qui acceptent CB. Et à la fin de l'année, toutes les banques pourront utiliser le protocole CB. Et pour Google Pay et Samsung Pay, ça va commencer vers fin 2025 et ça terminera de se propager en 2026.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Passer de la carte bancaire au smartphone, la bascule est en cours. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement d'objet. L'enjeu concerne aussi notre souveraineté numérique. C'est l'analyse de Julien Maldonato, cet associé du cabinet Deloitte, suit les questions de stratégie des services financiers. Je le retrouve à son bureau, à la Défense.
Payer via un smartphone, c'est confier les clés du camion à Apple et Google. À chaque fois qu'on paye, on a un point de passage obligatoire, c'est le portefeuille numérique, Apple Pay, Google Wallet. Et ces points de passage donnent un pouvoir immense aux plateformes Big Tech américaines, pouvoir de contrôle sur nos données et habitudes de consommation.
C'est en train de changer. En juillet 2024, la Commission européenne a imposé à Apple que ses concurrents puissent eux aussi installer sur ses téléphones leur service de paiement sans contact. Des acteurs européens espèrent en profiter, comme la plateforme Wero. Mais le smartphone n'est pas le seul outil qui pourrait ringardiser la carte bancaire. Julien Maldonato observe l'arrivée d'autres moyens de paiement plus expérimentaux.
Ça se fera probablement par étapes. On a Johnny Ive, qui est le designer de l'iPhone, qui travaille désormais à un plus petit objet qu'un smartphone. Donc on ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra, un pendentif ou une lunette. Donc l'idée, c'est de se défaire de ces contraintes d'écran, de saisie, pour aller vers le geste ou le sourire. Donc c'est déjà le cas effectivement en Chine, dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Les États-Unis y travaillent. On a progressé ces derniers mois dans les dispositifs d'implants neuronaux, directement connecter nos neurones, donc nos pensées, à cette matière informatique et penser très fort à un paiement pour l'effectuer sans même avoir besoin de sourire. Alors il y a plein de freins réglementaires, il y a aussi des freins culturels. On est moins habitué à une société de surveillance parce que derrière le sourire il y a une caméra, mais on prédit quand même que cette tendance soit plus forte que tous ces freins et finisse par l'emporter à long terme.
Les cartes bancaires, chronique d'une disparition annoncée. C'était le reportage d'Anna Elverzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
L'invité d'On n'arrête pas l'écho est un banquier. Bonjour et bienvenue, Daniel Ball.
Bonjour Alexandra Ben Saïd, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes à la tête du Crédit Mutuel et du CIC, ça fait 14 millions de clients en France.
Oui, c'est ça.
Vous êtes aussi depuis quelques jours le président de la Fédération bancaire française.
Et
vous
oui, nous avez, pour un an.
Pour un an, exactement. Et vous nous avez réservé votre première prise de parole. Merci à vous. La France a perdu son double A cette nuit pour la première fois, c'est la décision de l'agence Fitch. Daniel Ball, est-ce que c'est grave ?
Oui, c'est la mauvaise nouvelle quand on se réveille ce matin. La dégradation de la note de la France est une mauvaise nouvelle. Bon, cela étant, elle était malheureusement attendue. Et c'est juste le résultat de politiques, notamment de politiques budgétaires menées depuis très longtemps dans ce pays, qui nous conduisent dans cette situation extrêmement, extrêmement complexe.
Donc c'est une responsabilité politique ?
Je pense que c'est d'abord une responsabilité politique, c'est certainement pas une responsabilité des entreprises, puisqu'aujourd'hui les entreprises, elles, évoluent déjà dans un climat qui est compliqué, comme l'ensemble de la population française. Oui, ce qui s'est passé ces derniers mois n'arrange pas la situation. Je pense qu'on a aujourd'hui deux fautes originelles fortes. D'abord, la dissolution du 9 juin 2024 qui a quand même mis le pays dans un état d'incertitude constante. Et c'est vrai que depuis, on voit bien ce qui se passe. Et puis, le deuxième sujet, c'est quand même, et je renvoie là aussi la balle aux politiques, c'est un manque de dialogue. Un manque de dialogue de la part des politiques entre eux. Je vois que certains préfèrent émettre des posts sur X que vraiment parler entre politiques et parler aussi à la population. Et puis, il y a un vrai malaise d'une grande partie des Français qui ont le sentiment de ne pas être écoutés et encore moins d'être entendus. Donc, on est aujourd'hui dans une impasse. Il va bien falloir trouver un budget pour ce pays. On est le pays, aujourd'hui, la France est devenue l'homme malade de l'Union européenne. Il y a quelques années, on parlait des pays du Sud. Force est de constater que la Grèce, que l'Italie, que l'Espagne, que le Portugal ont remonté la pente et qu'aujourd'hui, c'est en France que la situation budgétaire du pays est la plus complexe.
On va continuer à parler évidemment de ce budget, de ce qu'il pourrait y avoir dedans, comment vous l'analysez. Encore une question sur la dégradation. Je suis particulier, je veux un crédit immobilier, qu'est-ce que ça change ? Je suis entreprise, qu'est-ce que ça change ? Pour l'État, est-ce qu'il y a un risque de dérapage des taux d'intérêt auxquels on emprunte ?
Oui, pour l'État, il y aura des conséquences, c'est que ça va encore renchérir la dette, le coût de la dette de la France. Ça, c'est malheureusement déjà le cas et on voit bien aujourd'hui.
Ça a déjà été intégré quand même.
Plus ou moins. Donc ça ne va pas avoir une conséquence lundi matin, mais sur la tendance de fond, ce n'est pas une bonne nouvelle. Sur les banques, le renchérissement de leurs coûts de financement, là pareil, ça ne va pas être immédiat, ça ne va pas être très fort, mais le fait que les notations des banques sont également souvent fonction de la notation de l'État dans lequel on se trouve. Donc il risque aussi d'y avoir peut-être une petite dégradation qui risque d'avoir une incidence sur le coût du refinancement. Cela, pour l'essentiel, de ce qui concerne les financements qui sont accordés aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises. Je pense que les décisions de la Banque Centrale Européenne qui ont été prises, et encore celle qui a été annoncée hier d'une certaine stabilité des taux directeurs, absolument, est assez rassurante et je m'attends plutôt à ce que dans les prochains mois, les niveaux des taux restent à peu près stables.
C'est très clair. Alors, le budget maintenant, Daniel Ball. Le nouveau Premier ministre a annoncé des ruptures. On pense qu'il va y avoir des compromis. Et vous appelez, hein, là, on vous a entendu.
Nous,
vous
régulièrement, absolument.
Au compromis. Mais des compromis, alors peut-être sur le montant d'économie. On sait que François Bayrou était focalisé sur 44 milliards d'économies. Ou alors sur le temps qu'on peut encore se donner avant de revenir sous les 3% de déficit. Est-ce que pour les investisseurs, pour le banquier que vous êtes, ça paraît raisonnable? Ça va être ça, les compromis?
Les compromis sont à construire. Nous, on ne parle pas de compromis comme étant juste un pis-aller. Il faut le construire. Bon, cela étant, on a un budget 2026 à construire. Il faut construire ensuite dans la durée. Donc là, évidemment, l'impasse est déjà extrêmement forte.
Le temps pour revenir sous les 3%? On peut se le donner?
Non, je pense qu'il ne faut pas se donner le temps. Il faut agir au plus vite. Maintenant, agir au plus vite ne veut pas dire trouver toutes les solutions dans un seul budget. On a aujourd'hui quand même des problèmes structurels dans ce pays et il va un jour falloir s'attaquer aux problèmes structurels. Lorsqu'une entreprise a des problèmes, elle prend les bonnes décisions et elle les prend comment ? Elle les prend d'abord aujourd'hui par la négociation, par la recherche de compromis au sein de l'entreprise. Et elle trouve souvent les solutions. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont devenues résilientes, sont devenues souvent des lieux où on trouve le compromis, où on trouve un excellent dialogue, et ce qui permet aujourd'hui aux entreprises, dans un contexte national dégradé, de bien se tenir. C'est quand même très intéressant. Donc, je dis, on a un modèle, et chez Crédit Mutuel, notamment chez Crédit Mutuel en général, nous sommes très attachés effectivement à trouver constamment des compromis. Les grandes décisions que nous avons prises, nous avons prises après de grosses discussions avec les parties prenantes.
Alors j'entends en creux, vous êtes scandalisé que les politiques ne se parlent pas. C'est ça que j'entends dans votre discours.
Scandalisé, non. Malheureusement, c'est une réalité. Et le fait qu'il y ait eu, effectivement, qu'il n'y ait plus de vraie majorité ou de majorité possible à l'Assemblée nationale n'arrange pas les choses. Bon, c'est malheureusement ce qui est arrivé à partir de 2024. Mais pour autant, et j'ai d'ailleurs signé une tribune il y a 15 jours sur le sujet, je ne peux envoyer qu'un seul message, dialoguons entre les politiques, mais dialoguons aussi avec l'ensemble des parties prenantes. Et je note que le nouveau Premier ministre, me semble aujourd'hui avoir la bonne méthode. Alors, y arrivera-t-il ? Je le souhaite pour la France, je le souhaite pour les citoyens.
Daniel Ball, vous savez bien où est le problème. Il y a le problème de sur quoi on économise et il y a le problème de qui doit payer plus. Par exemple, le débat que vous entendez sur la taxation Zucman, on vient de l'avoir. On peut aussi avoir le débat sur les aides aux entreprises, les revoir. Est-ce que ça vous paraît intéressant comme débat ? Est-ce que vous avez les yeux sur tous les comptes ? Les comptes des entreprises, les comptes des ménages. Vous savez qui a de l'argent de côté ? Les boomers peut-être ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent de côté. Effectivement, on le voit, il y a beaucoup d'épargne. Et je dirais même, il y a presque trop d'épargne, ce qui veut dire moins de consommation. Et pourquoi y a-t-il autant d'épargne ? Justement, à cause de cette situation politique complexe et ce manque de confiance. Les entrepreneurs, et je vois régulièrement des chefs d'entreprise, aujourd'hui n'investissent pas comme ils voudraient, comme ils devraient, et pourtant l'investissement, c'est le meilleur moyen de relancer. Cette situation que nous vivons aujourd'hui amène simplement à ce qu'il y ait moins de revenus, moins de bénéfices, et par conséquent, moins d'impôts payés. C'est mécanique.
Est-ce qu'on peut encaisser longtemps cette instabilité ?
Non, on ne peut pas l'encaisser pendant longtemps. C'est pour ça que j'en appelle effectivement à trouver des solutions. Et la solution, c'est clairement un budget de compromis. Alors, on peut également comprendre qu'entre la perfection que l'on devrait atteindre et ce qu'on fera, il puisse y avoir un petit écart. Et je crois que M. Bayrou, justement, a voulu aller tout à fait au bout. Maintenant, j'espère quand même qu'il y aura des efforts significatifs qui seront faits. Vous venez de parler du sujet des aides aux entreprises. Moi, j'aimerais juste dire un mot là-dessus.
Rapport sénatorial, 211 milliards, mais alors il y avait beaucoup de choses dans ces aides.
Hein. Exactement.
C'était très divers.
211 milliards. Parmi les aides, on considère que le fait que la TVA dans la restauration a été réduite, on considère que l'écart entre le taux réduit et le taux normal est une aide. C'est juste une mesure qui a été prise pour permettre à la restauration de continuer à fonctionner.
Ah, ça n'a pas fait beaucoup d'emplois, ça n'a pas fait vraiment des baisses de factures. Elle est très décriée, cette baisse de TVA, Daniel.
Elle est peut-être décriée, mais aujourd'hui, si on la remet en cause, ça réduira ça. L'autre sujet, et ça c'est plus fondamental, c'est que quand on regarde les prélèvements sur les entreprises en France, en neutralisant l'effet des aides, on est aujourd'hui à un niveau de 10,5% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 8% et qu'en Allemagne, on est à 7%.
Mais je veux bien
on a tout dit avec ça.
Personne ne
donc
veut payer.
Arrêtons de dire que les entreprises sont aidées. Je peux vous dire que dans une entreprise comme la nôtre, c'est certainement pas par les aides de l'État que nous vivons, mais au contraire, par la richesse que nous créons en interne, par la valeur que nous créons. Et cette valeur, je tiens à dire, nous la partageons. Nous la partageons en interne et nous la partageons en externe.
Daniel Ball, vous avez fait le dividende sociétal.
Absolument.
Ça veut dire 15% de votre résultat qui part sur des projets environnementaux et sociétaux. Il y a peut-être des entreprises, personne ne vous a suivi, en soyons clairs. Hein.
Peu d'entreprises vous ont suivi.
Il y a peut-être des gens qui ont beaucoup de marge, des entreprises qui pourraient se permettre de faire plus.
Sans doute. Absolument, et d'ailleurs régulièrement je lance des appels en ce sens en disant que le dividende sociétal qui a été impulsé par Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on souhaite qu'il soit effectivement relancé ailleurs. Cela étant, beaucoup d'entreprises aujourd'hui contribuent quand même au financement de l'intérêt commun.
Je voudrais qu'on parle du CumCum, ça c'est un très gros dossier. Le CumCum, stratagème par lequel 6 banques ont aidé des clients étrangers à éviter de payer un impôt sur les dividendes. Et ces banques-là, 6, pas la vôtre, se sont fait payer des commissions pour le faire. Cette semaine, le Crédit Agricole a accepté de payer 88 millions d'euros pour éviter des poursuites. Ça veut dire que le Crédit Agricole reconnaît qu'il s'agissait d'un évitement de l'impôt. Alors là, je vous demande de mettre votre casquette de la Fédération. Est-ce que, ça y est, le secteur dit « Ok, c'était une fraude fiscale de la part des banques ».
Alors, je vais être très clair. D'abord, je ne vais pas commenter une décision particulière, car ce n'est pas mon rôle en tant que président de la Fédération bancaire française. Je voudrais juste rappeler que ces opérations, qui sont en fait des prêts, emprunts, titres et dérivés sur actions, sont une réalité économique au service de l'économie. Et ces opérations apportent quand même des éléments indispensables au bon fonctionnement des marchés réglementaires et par conséquent l'attractivité de la banque française. Alors, La Fédération bancaire française est intervenue dans ce sens, dans ce dossier, notamment en relation avec le ministère de l'économie et des finances, avec un seul objectif, c'est que le cadre réglementaire soit parfaitement clair dans le respect des décisions prises par le Parlement et de ce qui est fait par l'exécutif.
Est-ce que si je vous dis que
je n'entends
pas, je vais vous laisser continuer, mais je n'entends pas de réponse. C'est une fraude ou pas une fraude ?
Je vais vous répondre que la Fédération bancaire française a été très claire dans son audition avec au Parlement. Qu'est-ce qu'elle a rappelé ? Elle a rappelé que s'il y avait infraction, évidemment, cette infraction devait être sanctionnée et elle doit être sanctionnée sous l'égide de qui ? Sous l'égide de la justice, évidemment.
Daniel Ball, je crois que ça c'est la réponse officielle. Allez.
Mais c'est la réponse. Mais évidemment, merci. C'est une réponse également argumenté.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, vous revenez ce matin sur la décision de justice qui a fait sensation cette semaine. Jusqu'à présent, tomber malade pendant ses congés payés, c'était vraiment pas de bol. Eh bien, maintenant, ça va changer.
On a tous connu ça, Alexandra, rester clouée au lit en plein milieu de ses vacances et perdre ce précieux temps de récupération. Le droit français était ainsi fait. Si on tombait malade avant d'avoir entamé ses congés, on pouvait décaler ses jours. Mais si on chopait la crève alors qu'on était déjà au vert, c'était tant pis pour nous. La Cour de cassation vient de réparer cette injustice. Un salarié en arrêt maladie pendant ses vacances pourra reporter ses jours. Les congés payés, c'est pour la détente. Les congés maladie, c'est pour se soigner. On ne mélange pas les deux.
Et donc, ça veut dire que si on a attrapé la grippe au mois d'août, par exemple, pas de bol, on peut demander à sa direction un report de jours.
Oui, il y a une rétroactivité sur 3 ans, mais l'effet devrait être limité parce qu'il faut avoir notifié cet arrêt à son employeur. Et peu de gens le faisait. Il pensait que de toute façon, ça ne servait à rien de demander un arrêt maladie pendant ses vacances. C'est pour l'avenir que ça change. Si ça se passe mal à la Toussaint, là oui, il faut penser à envoyer l'arrêt pour ensuite pouvoir prendre ses jours plus tard.
Sandrine, ça risque d'être un peu la pagaille hein, dans les entreprises, non?
Les directions l'ont un peu mauvaise et on peut les comprendre. Jusqu'à présent, elles n'ont fait qu'appliquer la loi. Le problème, c'est que l'État français n'était pas dans les clous. Ça fait des années que les juristes mettent en garde. Nous devons nous conformer aux règles européennes qui ne plaisantent pas avec les repos bien mérités. Il y a 2 ans, souvenez-vous, la Cour de cassation avait déjà jugé qu'on pouvait continuer à cumuler des jours de congé pendant les périodes de maladie. Le législateur a dû rectifier le tir avec une nouvelle loi qui entérine ce gros changement. Ça ne lui a pas servi de leçon. Dans cette affaire de report de jours, la Commission européenne a mis la France en demeure de respecter la directive sur le temps de travail. Une procédure d'infraction a même été lancée. Le ministère du Travail s'est contenté de publier une fiche technique expliquant aux employeurs qu'ils pouvaient, je cite, « avoir intérêt à s'inspirer de cette jurisprudence européenne afin d'éviter tout contentieux inutile, mais un État ne prend pas ses responsabilités avec une fiche technique. Peu de patrons la liront, il faut une loi. C'est ce qui va sans doute se passer avec des débats sans fin sur le coût des arrêts maladie, les jours de carence et la compétitivité française. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, le droit européen nous dit une chose très simple, les arrêts maladie, c'est pas des vacances.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.